Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Voyager, explorer, collectionner. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir aussi, c'est pouvoir mieux connaître le monde, ce monde dans lequel nous vivons, mais pas forcément au travers de trésors flamboyants, mais au travers de la connaissance, des peuples et de leurs objets. Pour vous parler de tout cela, j'ai envie de vous dire que je vais recevoir aujourd'hui un homme de passion, un homme de connaissance, un homme de connaissance de ce monde, de notre monde. Pour nous parler également de cette beauté qui retrace l'histoire de notre monde, de nos peuples, au travers des objets. Et puis j'ai envie de vous dire aussi des lumières de notre monde, au travers de ces peuples. Bonjour Pierre-Yves Beaurepaire.
Bonjour madame.
Bon, merci d'avoir accepté mon invitation pour Le Monde et les Lumières, aux éditions Belin. Je disais voyager, explorer, collectionner. Déjà, on va faire connaissance avec vous. Qui est Pierre-Yves Beaurepaire?
Alors, je suis professeur d'histoire moderne à l'Université de Nice. Oui. Je travaille tout particulièrement sur le siècle des Lumières, sur les circulations des hommes, des idées, des objets au XVIIIe siècle. Il y a une dimension assez fascinante parce qu'il y a une extension de l'Europe au monde assez remarquable.
Alors, comment s'est construit ce livre? Alors, il y a énormément de références, bien sûr, aux collectionneurs du moment, naturistes, botanistes. On découvre finalement le monde, je disais, voyager, explorer, collectionner, et notamment un chapitre de votre livre qui m'a marqué. Je trouve qu'il est un petit peu la colonne vertébrale du livre, c'est « Le monde est une collection ».
Oui, parce qu'effectivement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'écriture de ce livre, c'est qu'au départ, moi, je travaille sur l'Europe du XVIIIe siècle. Oui. On parle du cosmopolitisme des Lumières, des voyages. On est entre guerre et paix. On est dans les académies qui se déploient à travers l'Europe, les loges maçonniques, etc. Donc, toute une circulation des idées, la part de la langue française dans la communication internationale. Mais en même temps, même l'Europe ne leur suffit pas. C'est-à-dire que ils sont dans une logique où ils voudraient faire un voyage dans le temps, et ça donnera naissance à notre archéologie. Oui. Et donc on dit à cette époque-là que ce sont des antiquaires, au sens que le terme a au XVIIIe, XIXe siècle, qu'on est fasciné par les antiquités. Donc c'est un voyage dans le temps, qui est aussi un voyage dans l'espace, parce que on va voyager au Levant, donc notre Proche-Orient. Mm-hmm. On va voyager donc dans des territoires qui relèvent encore de l'Empire ottoman, dans la rive sud de la Méditerranée, et en même temps, on va en aller encore plus loin avec des voyages d'exploration, qui sont ceux de nouveaux horizons, et notamment alors l'Amérique latine, parce que faut pas croire qu'avec les grandes découvertes, les voyages se sont arrêtés. On va beaucoup voyager, si on pense à Humboldt à la fin du 18e, 19e siècle, on va beaucoup voyager en Amérique latine, mais bien sûr, dans le Pacifique, donc quand même le plus grand océan du monde. Et là, le monde est une collection, c'est d'abord une collection de territoires, une collection d'expériences, une collection de découvertes, et une formidable projection à la fois dans le temps, dans le passé, et aussi dans l'espace avec de nouveaux horizons.
Alors il y a 250 ans, justement, il y avait ces expéditions polaires du Pacifique jusqu'au Nil. Le monde est une collection, de découvertes, avec également de grands découvreurs, de grands voyagistes, de ces personnages qui, avec ces grands bateaux, ces grandes frégates, ces grands vaisseaux, ont parcouru le globe à la découverte de la collection de ce monde.
Oui, tout à fait. Moi, un des exemples que je prends, parce que c'est une des grandes figures des sciences en Grande-Bretagne et puis de manière générale en Europe à ce moment-là, s'appelle Joseph Banks. Oui. Il sera président de la Royal Society, donc l'Académie des sciences, l'héritière de celle de Newton. Et Banks a une vingtaine d'années quand il va s'embarquer pour le premier voyage de Cook. Il a la possibilité de le faire parce qu'il a de l'argent. Il est influent auprès de l'amirauté anglaise, mais c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et il se passionne pour la botanique, parce que le XVIIIe siècle vraiment se passionne pour la botanique, non seulement en Europe, mais aussi dans tous les espaces coloniaux, où il y a la chance d'avoir des formidables réservoirs de botanique. Il va s'embarquer, sur le navire de Cook, sur l'Endeavour. Il va aller donc effectivement jusqu'à Botany Bay, la bien nommée, et il va au fil des étapes réunir d'extraordinaires collections naturalistes, donc spécimens botaniques et puis zoologiques, qui viendront pour certains, alors ils feront ensuite sa réputation comme savant, mais qui seront même versés pour certaines d'entre eux, de ces prélèvements, donc pour certains d'entre eux, dans les collections du British Museum. Donc on a vraiment un lien entre le voyage, la découverte de nouvelles espèces, la classification, c'est le système de Linné à ce moment-là qui se met en place, et puis ensuite la venue au musée de ces collections qui permettront à un public beaucoup plus large de les voir.
Là, on s'aperçoit aussi qu'entre tous ces chercheurs, botanistes, naturalistes et autres, il y a une forme de hiérarchie, de respect mutuel, d'échange d'informations aussi, mais il ne faut pas trop marcher, je dirais, sans faire de mauvais jeu de mots, de marcher sur les plates-bandes de l'autre. C'est-à-dire, on échange les informations, mais également, on respecte les premières recherches, les premières trouvailles de l'autre. Et je fais référence, par exemple, à Michaud, également.
Oui, c'est tout à fait ça. Moi, ce qui m'a intéressé dans le cas d'André Michaud, c'est que, bon, en France, à part les botanistes, il est relativement méconnu aujourd'hui. Il y a une Rose Michaud, il y a, on l'associe à un certain nombre de choses, mais on a un peu oublié, alors qu'en réalité, il est très connu en Amérique, parce qu'il y a une société internationale Michaud, il a écrit une flore américaine qui fait autorité. Et surtout, moi j'ai étudié son premier voyage, moins son voyage en Amérique, que le voyage qu'il fait en Perse, qu'il fait au Levant et proche au Moyen-Orient. Et là, on se rend compte que c'est lui qui va, par exemple, découvrir, même si c'est pas l'identifier, hein, bien sûr, un caillou qui porte son nom aujourd'hui, qui est conservé à la Bibliothèque nationale à Paris, qui est un caillou recouvert d'inscriptions cunéiformes, et ça permettra, lorsqu'on commencera à déchiffrer les inscriptions en langue cunéiforme, de découvrir un monde extraordinaire. Hein, c'est celui de la Mésopotamie, c'est celui de ces cités-États qui vont ramener les origines de l'écriture de plusieurs centaines d'années en amont. Et donc, vous voyez, vous avez un botanique, mais qui est en même temps un antiquaire archéologue, un botaniste qui est en même temps antiquaire archéologue, quelqu'un qu'on envoie aussi pour faire des mesures astronomiques. Donc, il y a une sorte de passion et d'engouement général pour les sciences, qui est quelque chose de très important. Mais comme vous disiez à juste titre, ces savants collaborent entre eux, parce que les aléas du voyage, parce qu'on a besoin d'autorisation, de recommandations, de passeports, comme on dit déjà à cette époque-là, mais en même temps, on reste néanmoins des rivaux, y compris quand on est entre français et anglais. Banks aide les français, mais il surveille aussi les progrès de la science française. Donc, cette science est bien représentative du siècle des Lumières et de ses ambiguïtés.
Alors, on s'aperçoit aussi que, au travers des mers, hein, des circuits marins, au travers des voyages aussi, il y a aussi une hiérarchie. Et puis, on a l'impression que les territoires découverts, les océans ou les morceaux de mer comme ça, de mer infinie, sont la propriété aussi de celui qui l'a parcouru avec son bateau, ses vaisseaux, au travers des découvertes aussi. C'est exact la même chose que sur Terre quand on découvre un trésor.
Oui, c'est tout à fait ça. Et vous avez d'ailleurs, ça se reflète particulièrement dans la toponymie de l'époque, les cartes, hein, puisque ces officiers de marine et ces explorateurs sont des cartographes et amènent des cartographes avec eux. Bien évidemment, on va nommer
les endroits découverts, découvreurs.
Tout à fait, les découvreurs hollandais vont par exemple appeler l'Australie Nouvelle-Hollande, bien évidemment. Quand les Anglais vont être de plus en plus présents, ils vont choisir un autre terme, ça sera l'Australie. Et puisqu'on commence à comprendre à l'époque que c'est effectivement un continent austral en soi. Mais on va appeler ce qui est Tahiti aujourd'hui l'île du roi Georges. Il y a un cap quand les Français de l'expédition Baudin vont arriver au tout début du 19e siècle, ils vont nommer un cap Napoléon. On a effectivement, et on en a des héritages aujourd'hui aussi bien avec Sydney, par exemple, hein, qui est Port Jackson à cette époque-là, ou alors la Nouvelle-Calédonie, on va nommer soit avec donc les noms de puissants qui ont parrainé les expéditions, hein, Lord Sandwich, qui est le premier ordre d'amirauté pour les îles qu'on appelle Hawaï aujourd'hui, etc. C'est une façon aussi de prendre possession symbolique du territoire, on le fait de même pour la mer. Moi, j'ai un peu tendance à dire qu'en fait, la mer est la mer lointaine, la mer océanique est au XVIIIe siècle, ce que l'espace est aujourd'hui. Dans l'espace aujourd'hui, on veut aussi marquer son territoire. À la fois, on coopère, mais on est rivaux. On le voit bien, y compris avec la question de la militarisation de l'espace. Et bien, à l'époque, c'est la même chose. Louis XVI pousse la marine française à aider Cook alors même qu'on est en conflit.
Tout à fait.
Pour autant, il ne faut pas imaginer que la collaboration soit permanente et désintéressée. On se surveille. Et la première façon de revendiquer de nouveaux territoires, c'est de planter son drapeau et de donner le nom de son prince, de son territoire. On l'a encore, on a un héritage de ça direct aujourd'hui avec le continent, le vrai continent austral, hein, avec l'Antarctique, où on voit bien que on a eu des revendications qui datent du XVIIIe et du XIXe siècle, des voyages que j'ai évoqués, du mont d'Urville après pour les Français, d'où la terre à Delhi, mais aujourd'hui, missions scientifiques, notamment des Chinois, et des revendications territoriales de plus en plus fortes, à la fois des grands voisins, là encore l'Australie, qui revendiquent une part du continent Antarctique. Mais vous avez des nouveaux venus qui veulent la même chose. Et ben, c'est un héritage direct de ce qu'on voit au XVIIIe siècle.
Mais ce sont également les héritiers des découvreurs précédents, Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama. C'est une continuité dans l'héritage des continents, des mers et des peuples.
Oui, tout à fait. Il y a à la fois le phénomène de continuité qu'on voit très bien là encore dans le Pacifique, parce qu'il y avait une route espagnole, du galion de Manille qui allait en fait d'Acapulco à Manille. Alors c'est pas, il faut pas imaginer qu'une route navale, parcourue par des dizaines et des dizaines de navires, mais on a commencé à expérimenter déjà des liaisons à longue distance régulières de ce type-là, qui fait quand même qu'on voit arriver au Mexique, on a un extraordinaire témoignage d'un natif de la périphérie de Mexico qui voit arriver une ambassade japonaise en 1610, donc l'année de l'assassinat d'Henri IV.
Henri IV, oui.
Et vous voyez,
1er mai 1610, oui.
Voilà, ça fait vraiment, ça a marqué les contemporains, puisque dans son journal, il raconte à la fois l'arrivée de la délégation japonaise et ses samouraïs, il va même décrire leurs sabres, etc. Et il a su que Géant Roux, c'est l'expression qu'il emploie, hein, bien sûr c'est Ravaillac, donc a poignardé le roi de France.
Le roi de France.
Et il a des sentiments mitigés parce que le roi de France est en même temps le roi du pays rival, hein, de l'Espagne, puisque lui maintenant est sujet espagnol. Donc il y a à la fois l'héritage de cette première phase de grande découverte, et il y a en même temps une réelle différence. C'est qu'au XVIIIe siècle, notamment dans le Pacifique, même si on a des volontés impériale et d'ambition, il y a absolument l'idée de rompre avec les brutalités du XVe et du XVIe siècle. Pas de conversion forcée, pas de mise en esclavage. Et ça, c'est pas simplement un effet d'annonce. C'est pas de la communication monarchique, c'est une réalité. Ça va changer radicalement la donne, à tel point que même s'il y a des incidents, qui sont parfois des incidents sanglants, il n'y a pas de volonté de conquête par le fer et par le feu. On le voit très bien, y compris lorsque dans le troisième voyage de Cook meurt à Hawaï. Il y a une volonté de ne pas. On va obtenir sa dépouille ensuite pour qu'il soit pour qu'il ait un office, un mortuaire digne de ce nom. Mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de mesures de rétorsion brutale où on aurait liquidé une population entière. On se rend très vite compte, il s'agit d'un malentendu, hein, sur une zone qui était réputée taboue et où le navire n'aurait pas dû revenir. Donc on sans minimiser la portée de certains incidents, on insiste sur le fait qu'on ne veut absolument pas de représailles massives, de domination des populations, etc.
De colonisation forcée et d'évangélisation forcée également.
Voilà, tout à fait. Ce qui n'empêche pas qu'au XIXe siècle après, c'est pour ça que parfois même, dans certains contextes pacifiques, la figure de Cook est contestée.
Alors, je précise,
la voie.
C'est James Cook. Hein, parce que oui. Avec tout ce qu'on a entendu ces temps-ci,
c'est
James Cook,
celui de l'Endeavor, notamment du Resolution, etc.
Tout
à l'heure, je parlais de l'espace. Ce n'est pas un hasard si finalement, alors que là, on est dans le monde britannique, c'est pas un hasard si les navettes spatiales américaines vont reprendre les noms d'Endeavor, etc. Ou être dans l'utopie
des grands découvreurs,
de la navigation et du voyage avec Atlantis. On est vraiment dans la fascination donc pour ces grands voyages du XVIIIe siècle, dont nos équivalents seraient spatiaux.
Oui. Eh bien, je vous propose quelques petites minutes d'un grand voyage musical, et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission « Délivrez-vous » pour ces deux ailes avec Pierre-Yves Beaurepaire pour son livre « Le monde et les lumières, voyager, explorer, collectionner ». Alors, on s'aperçoit aussi, moi je vous l'avoue, j'ai adoré votre livre parce qu'on y apprend tellement de choses. Puis je suis une voyageuse invétérée, donc vous imaginez bien que tout cela m'a passionnée. Je suis sûre que nos auditrices et auditeurs, ça va être la même chose. On se rend compte aussi qu'au travers des peuples, au travers de leurs objets du quotidien, on apprend énormément de choses et des choses qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui que l'on ne soupçonne peut-être même pas. Mais au travers de ces peuples, c'est un peu de nous. Nous allons à la rencontre de nous-mêmes et de notre histoire.
Oui, tout à fait. Dans la perspective des Lumières, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a l'impression que finalement, on retrouve nos origines. Alors, il n'y a pas simplement la question du bon sauvage pour le XVIIIe siècle, etc. Il y a des questions beaucoup plus larges autour de retrouver une humanité dans l'enfance, avant la chute, d'une certaine façon, avant aussi la corruption par le luxe en Europe, etc. Donc, il y a cette idée qui est assez présente dans leur description, d'être finalement l'impression de pouvoir redécouvrir une page blanche de l'histoire de l'humanité, mmh. et puis d'écrire autre chose que celle de la colonisation des Amériques, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans votre livre, ce sont les annexes où vous retranscrivez, transmettez des échanges de courriers entre justement ces découvreurs, ces voyageurs, ces savants, moi j'ai envie de dire des savants aussi également. Mmh.
C'est tout à fait ça, ce sont vraiment des savants, mmh. et il y a une dimension à la fois d'érudition chez eux, mais comme on dit au XVIIIe siècle, d'érudition agréable, c'est-à-dire qu'en même temps, on veut faire passer le message au public, on veut faire connaître ce qu'on fait. C'est pas des savants qui seraient enfermés dans leur cabinet, non. dans leur tour d'ivoire et qui ignoreraient le public. Il faut imaginer que il y a des magazines, notamment britanniques, mais pas seulement, à plusieurs milliers d'exemplaires au XVIIIe siècle, de magazines grand public, oui. avec de magnifiques gravures à l'intérieur. Et très rapidement, quand on est en voyage de retour, on prépare, à partir du journal du bord, son récit de voyage. Mm-hmm. On prépare des atlas, on prépare des gravures mm. qui vont être intégrées non seulement aux publications officielles du retour du voyage, mais où chaque officier de marine, chaque savant, veut faire publier son propre témoignage et aussi où on veut donner à lire au public eh bien ce qu'on a découvert.
Oui.
Et donc vous avez des périodiques anglais vraiment grand public ou voisine donc une presse People qui existe déjà au XVIIIe siècle ou voisine aussi bien le dernier scandale entre une actrice de théâtre anglaise
et un riche milliardaire,
un aristocrate, voilà, et un riche financier de cette époque-là.
Oui.
Et à côté de ça, vous allez avoir des gravures décrivant les tatouages maoris, oui. la découverte du kangourou. C'est assez extraordinaire.
Les découvertes de plantes et de fleurs que nous connaissons aujourd'hui, mais qui ont été découvertes à l'époque aussi, au XVIIIe siècle.
Voilà, exactement,
siècle.
Et mm-hmm. qui vont ensuite arriver dans les jardins botaniques, non seulement dans les capitales, Kew, mm-hmm. à côté de Londres, le jardin du roi à Paris,
et les animaux
aussi dans les ports.
Voilà, tout à fait. Et les animaux également, la découverte des
animaux.
Et les
animaux, effectivement, mm-hmm. qu'on va soit réussir à ramener vivants et qu'on va retrouver dans les ménageries royales, ou alors qu'on va naturaliser. Et il y a une histoire, moi, qui m'a beaucoup plu en écrivant ce livre, c'est celle de l'ornithorynque,
oui.
à la fin du XVIIIe siècle, où les savants sont persuadés que c'est une rumeur. Parce que comment destiner à se moquer d'eux? Parce qu'on n'arrive pas à prendre des ornithorynques vivants, donc en fait, ce sont des ornithorynques naturalisés, ce sont des peaux
oui.
qui arrivent avec des descriptions, mmh. et vous avez cet animal à corps de loutre, avec une queue qui serait celle du castor, avec un bec de canard, dont la femelle pond des œufs, mais en même temps allait ses petits. Donc on se dit, non, c'est une mystification, c'est pour nous tourner en ridicule. Et en fait, pas du tout. Et il y a un extraordinaire engouement pour la connaissance, finalement, d'animaux assez extraordinaires, comme les kangourous, avec les poches des marsupiaux. Voilà, donc il y a vraiment... on est parti pour des décennies de découvertes et d'explorations, mais on veut en faire profiter les autres. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau.
Oui. Alors, vous parlez également d'un naufrage. La personne qui parle dit, voilà, je touche ce livre cartonné avec dedans toutes les recherches. On sent vraiment une forme de respect, une sorte de bien-être à la recherche en ouvrant ce livre cartonné avec ces pages où sont inscrits les recherches. Également où l'auteur inscrit son, comment dirais-je, sa façon de voir les choses et son sentiment. Pour vos recherches à vous, pour ce livre, je suppose que vous êtes allé à la rencontre de tous ces livres magnifiques sur le naturalisme, le botanisme, les découvertes des mers, des océans.
Oui, tout à fait. Et en fait, vous disiez que vous étiez une passionnée de voyage.
Oui.
Moi, il se trouve que je suis allé travailler 2 ans à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et je suis retourné par la suite plusieurs fois. Et ça a changé radicalement ma vision de l'Europe du XVIIIe siècle, parce que le XVIIIe siècle est partout dans le Pacifique.
Oui.
Je parlais de Sydney tout à l'heure, etc., de la Nouvelle-Calédonie. L'université était sur un boulevard qui s'appelait James Cook.
Oui.
voilà, donc elle était absolument partout. Et en même temps, on se rend compte que finalement, on a une vision... L'espace est tellement gigantesque
oui.
qu'on a une vision très différente de l'Europe quand même aujourd'hui, avec les moyens de communication, de déplacement et d'échange d'informations, on a un autre rapport au monde. Eh bien, j'ai voulu découvrir, en fait, ça a été l'origine de cet ouvrage-là.
Je suppose aussi que vous êtes allé à la rencontre, de par vos recherches, de par vos lectures, de personnages qui vous ont fasciné, passionné, qui vous ont parlé quelque part, qui vous ont interpellé intellectuellement et philosophiquement aussi.
Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a des vrais... Faut pas imaginer des savants perdus dans leurs recherches naturalistes et autres. Ils ont une vraie réflexion sur l'humanité,
sur le monde,
l'environnement, sur l'espace. Si on pense à quelqu'un comme Humboldt, qui est un savant prussien, mais qui vit une grande partie de sa vie en France et publie en français, et qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il suffit de regarder une carte, on voit le courant de Humboldt, le territoire de Humboldt, on voit le manchot de Humboldt, etc. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un savant absolument génial de la fin du 18e et du début du 19e siècle. C'est quelqu'un qui, au départ, voulait s'embarquer en Méditerranée, voulait aller dans la campagne d'Égypte de Bonaparte pour découvrir, là aussi, l'antiquité égyptienne. Et puis, finalement, il a failli s'embarquer dans une autre expédition française, celle de Baudin, qui devait faire le tour de l'Australie. Mmh. Et puis, ça n'a pas marché non plus. Et finalement, c'est le hasard extraordinaire des rencontres à ce moment-là. Il traverse l'Atlantique et il va explorer l'Orénoque, changer complètement la façon de faire des cartes. Il fait de véritables cartes en trois dimensions. C'est quelqu'un qui a complètement bouleversé notre vision du monde. Mmh. Alors même qu'aujourd'hui, alors qu'on va s'apprêter à fêter l'anniversaire de Humboldt, c'est quelqu'un qui finalement est beaucoup moins connu, mais qui à l'époque a complètement révolutionné la vision du monde et s'interroge philosophiquement sur les populations qu'il rencontre. Sur ses cartes, il note non seulement dans l'Amérique espagnole, par exemple, le nom utilisé par les Espagnols, mais les noms indigènes. Il fait un nombre de mesures absolument extraordinaires. Voilà, vous avez à la fois des gens extrêmement passionnés et puis d'une ouverture à l'autre extraordinaire.
Mais en fait, pour être découvreur, il faut être ouvert à l'autre, savoir être à l'écoute, que ce soit des peuples, des objets, que ce soit des plantes ou des animaux. Il y a une écoute, il y a forcément une recherche, donc il faut certainement une ouverture intellectuelle et philosophique quand même assez importante. Est-ce qu'il y a encore des choses dans notre monde à explorer, à découvrir, Pierre-Yves Beaurepaire ?
Ah, alors moi, je dirais sans hésiter, oui. D'abord, dans la perspective naturaliste, là, qu'on évoquait, les botanistes, les minéralogistes, et puis ceux qui sont dans le domaine de la zoologie, il faut imaginer quand même qu'on découvre sans cesse de nouvelles espèces, en même temps qu'on découvre aussi sans cesse qu'un certain nombre d'espèces disparaissent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut avoir simplement une vision pessimiste en disant, vous savez, c'est la sixième extinction, etc. On peut avoir aussi l'idée qu'il y a déjà, ce qui est leur cas, une formidable conscience qu'il y a une étendue du vivant absolument extraordinaire, que le vivant change tout le temps et que on peut surtout redécouvrir soit des éléments du vivant qu'on croyait connaître ou qu'on pensait disparus. Je prends juste un exemple. Pendant très longtemps, on n'arrivait plus à avoir de connaissances précises des cétacés, notamment des cachalots, tout simplement parce qu'en raison de la chasse à outrance, ils fuyaient l'homme. Et depuis, par exemple, c'est très, très frappant pour les cachalots, depuis que la pêche et la chasse est interdite, en fait, les cachalots se rapprochent de plus en plus des hommes. Et vous avez toutes sortes de missions qui sont organisées, par exemple, au large de Madagascar ou de Maurice, où on commence à connaître, mais sur plusieurs générations, le détail de ces sociétés de cétacés, leur fonctionnement, pas simplement acoustique, et on se rend compte qu'on ne fait que commencer à les connaître. Vous voyez, alors on est très très loin du chasseur de baleines
du
18e siècle, là dans le Pacifique, justement, qui remonte jusque dans les côtes du Chili, ou en Nouvelle-Zélande, ou alors, bien sûr, de Moby Dick. Et donc ça, vous avez un exemple concret, mais il y en a des centaines d'autres comme ça, où on voit que, finalement, on se rend compte qu'on ne fait que commencer à connaître connaître le vivant, et que, comme je disais tout à l'heure, quand on change de contexte, quand on change vraiment de moyens d'observation,
on découvre d'autres choses.
À découvrir.
En tout cas, c'est un livre, moi je dirais, formidable, intéressant, passionnant que vous nous offrez, Pierre-Yves Beaurepaire. On y découvre plein de choses. On y découvre un monde, notre monde, avec des choses que nous connaissons aujourd'hui, mais on plonge vraiment dans cette découverte. Et ça fait du bien parce que je trouve que ça remet un petit peu en place cette humanité dont nous avons bien besoin. Les Lumières et le Monde, voyager, explorer, collectionner, aux éditions Belin. C'était un vrai plaisir de vous recevoir, Pierre-Yves Beaurepaire. Je vous remercie infiniment. J'espère qu'on vous retrouvera pour d'autres ouvrages. Je sens que vous êtes un passionné et je suis sûre qu'on vous retrouvera à ce micro pour d'autres aventures.
Avec grand plaisir.
Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.